les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il savait qu'il avait existé car il avait senti son époque, les gens. Il savait qu'il n'existerait plus dès lors qu'il aurait cessé de sentir tout cela. Que lui resterait-il à faire ? Écrire. Et laisser un très long manuscrit aux aventures éditoriales à venir mouvementées. L'histoire du manuscrit des Mémoires de Casanova, c'était dans Heures de culture française, le 9 juin 1959, sur France 3 Nationale. Une émission de Jean-Michel Bloch. Lecture, Samson Fincilbert.
Si Casanova a eu de multiples aventures, ses mémoires n'en ont pas manqué non plus et elles ne sont peut-être pas terminées. Voici donc cet aventurier, grand coureur de femmes, roué à sa manière, mélange d'astuce extrême et de vanité presque enfantine, retiré dans un château allemand où il s'ennuie et où il se dispute avec les domestiques. Que faire ? Tenter évidemment de revivre les moments glorieux de sa vie, retrouver sa jeunesse et remplir ainsi de tristes et longues journées par le récit des aventures brillantes des années passées. C'est en 1791 que Casanova entreprend la rédaction de ses mémoires. Il a maintenant 70 ans. Il a derrière lui une longue carrière littéraire. Selon un de ses meilleurs biographes, il a publié 43 ouvrages, tous parfaitement illisibles d'ailleurs, à l'exception de l'histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise, et tous portant sur les sujets les plus divers. Maintenant, il va se consacrer au récit de sa propre vie, et il y trouvera, comme il le dit lui-même, le seul plaisir de son vieil âge.
À l'âge de 72 ans, en 1797, lorsque je puis dire « Vixi », quoique je vive encore, il me serait difficile de me créer un amusement plus agréable que celui de m'entretenir de mes propres affaires et de fournir un beau sujet de rire à la bonne compagnie qui m'écoute, qui m'a toujours donné des preuves d'amitié et que j'ai toujours fréquenté. Pour bien écrire, je n'ai qu'à m'imaginer qu'elle me lira. Quant aux profanes que je ne pourrais empêcher de me lire, il me suffit de savoir que ce n'est point pour eux que j'écris. En me rappelant les plaisirs que j'ai eus, je les renouvelle, j'en jouis une seconde fois, et je ris des peines que j'ai endurées et que je ne sens plus. Membre de l'univers, je parle à l'air, et je me figure rendre compte de ma gestion comme un maître d'hôtel le rend à son maître avant de disparaître. Quant à mon avenir, je n'ai jamais voulu m'en inquiéter en qualité de philosophe, car je n'en sais rien. Et en qualité de chrétien, la foi doit croire sans raisonner, et la plus pure garde un profond silence. Je sais que j'ai existé, car j'ai senti. Et le sentiment me donnant cette connaissance, je sais aussi que je n'existerai plus quand j'aurai cessé de sentir.
Le voici donc au travail, et avec un plaisir qu'il ne peut en effet cacher au lecteur. C'est si vrai que ce qu'il y a de plus charmant et de plus entraînant dans ce livre, ce sont les premiers volumes. Bien qu'il se soit arrêté dans le récit de sa vie bien avant la vieillesse, ses mémoires ne vont que jusqu'à 1774, bien qu'il n'ait raconté que les 50 premières années de sa vie, il n'a pris de plaisir véritable qu'à parler des 35 premières. Casanova n'était pas fait pour vieillir. L'âge lui retirait ses principales ressources, celles dont il vivait. À partir de l'instant où les femmes ne l'ont plus aimé, où il n'a plus amusé les hommes, il a perdu sa gaieté et son argent. Et dans sa vieillesse, qu'il est, il ne trouve de plaisir que dans le souvenir de ses jeunes années, dans tous ses souvenirs, même les plus lestes.
Si quelquefois on trouve que je peins certaines scènes amoureuses avec trop de détails, qu'on se garde de me blâmer, à moins qu'on ne me trouve un mauvais peintre, puisqu'on ne saurait faire un reproche à ma vieille âme de ne savoir plus jouir que par réminiscence. La vertu, au reste, pourra sauter tous les tableaux dont elle serait blessée. C'est un avis que je crois devoir donner ici. Tant pis pour ceux qui ne liront pas ma préface. Ce ne sera point ma faute, car chacun doit savoir qu'une préface est à un ouvrage ce que l'affiche est à une comédie. On doit la lire.
En mourant, Casanova lègue le manuscrit de ses mémoires à son petit-neveu Carlo Angiolini. Celui-ci, qui ne semble pas se rendre compte du trésor qu'il possède, met près de 20 ans à le faire publier. Il ne le porte qu'en 1820 à l'éditeur Brockhaus de Leipzig. Celui-ci publie d'abord une traduction allemande de l'œuvre. Elle a tant de succès qu'une traduction française de la traduction allemande paraît quelque temps plus tard à Paris. Brockhaus se décide alors à publier le texte français, puisque c'est en français que Casanova a écrit ses mémoires. La publication est terminée en 1838. Tous ceux qui étudient ce texte sont tout d'abord persuadés d'une chose, ce n'est pas Casanova qui l'a écrit. On se souvient du prince de Ligne affirmant que parmi les choses que Casanova prétend savoir mais qu'il ne sait pas, il y a les règles de la langue française. Or, les mémoires sont écrits dans une langue merveilleuse, alerte et rapide. C'est au point qu'un érudit, Paul Lacroix, affirme qu'un habile homme a refait les mémoires sur les papiers laissés par Casanova et que cet habile homme, il en a la certitude, c'est Stendhal. La querelle aurait pu continuer longtemps si Brockhaus lui-même, l'éditeur des mémoires, n'y avait mis fin en déclarant dans une lettre de 1867 que la rédaction de l'édition originale, c'est-à-dire la correction ou le jugement des passages à supprimer ou à changer, a été confiée à M. Laforgue, résidant comme professeur de la langue française à Dresde. Depuis ce temps, le manuscrit original de Casanova, avec sans doute ses italianismes, ses fautes de français et certainement ses fautes de goût, repose dans les coffres des éditions Brockhaus à Leipzig. Il paraît que nous aurons prochainement une édition française et définitive du manuscrit original. Mais pour l'instant, nous ne pouvons travailler que sur le manuscrit Laforgue. Nous n'en connaissons que cette version réécrite par lui. Et il serait scandaleux qu'une œuvre aussi importante pour l'histoire de l'Europe n'ait pas encore été publiée dans sa version, ne soit pas publiée dans sa version originale, pour des raisons qui, quelles qu'elles soient, ne peuvent être que mauvaises. Cela dit, il faut rendre à Laforgue l'hommage qu'il mérite. Certes, la matière sur laquelle il travaillait était de premier ordre, mais il en a fait un chef-d'œuvre littéraire, car écrit par lui, les mémoires de Casanova sont devenus un des plus beaux romans d'aventure que nous connaissions. Un roman d'aventure, mais aussi un tableau extraordinairement vivant des milieux les plus divers que Casanova a connus. À travers cette œuvre, nous allons donc essayer de reconstituer un peu la société de ce temps. Mais auparavant, il nous faut présenter le principal personnage de la comédie, Giacomo Casanova. De ce personnage, que dit Casanova lui-même? Le voici, à 18 ans, arrivant à Rome.
Me voilà donc à Rome, bien nippé, passablement fourni d'espèces, monté en bijoux, pourvu de quelque expérience, avec de bonnes lettres de recommandation, parfaitement libre, et dans un âge où l'homme peut compter sur sa fortune s'il a un peu de courage et une figure qui prévienne en sa faveur les personnes qui l'approchent. J'avais non pas la beauté, mais quelque chose qui vaut mieux, un je ne sais quoi qui force à la bienveillance, et je me sentais fait pour tout.
Et 3 ans plus tard, le voici de retour à Venise. Il vient de faire sa première dupe. Monsieur de Bragadin l'a adopté en raison de l'admiration qu'il professe pour les talents de cabaliste de ce jeune homme de 21 ans.
Assez riche, doué par la nature d'un extérieur agréable et imposant, joueur déterminé, vrai panier percé, grand parleur toujours tranchant, rien moins que modeste, intrépide, courant les jolies femmes, supplantant des rivaux, ne connaissant pour bonne compagnie que celle qui me divertissait, je ne pouvais être que haï. Mais toujours prêt à payer de ma personne, je me croyais tout permis, car l'abus qui me gênait me paraissait devoir être brusqué.
Il a maintenant 36 ans. Il est, si l'on peut dire, à l'apogée de sa carrière. À la suite d'une comédie d'une extraordinaire audace et dont il est malheureusement impossible de parler ici, il vient de ravir pour près d'un million de bijoux à la vieille marquise d'Urfé, après lui avoir promis que, par sa vigueur, il lui permettrait d'accomplir sa propre hypostase. C'est-à-dire que la marquise, qui avait plus de 70 ans, espérait donner prochainement naissance à un enfant du sexe masculin qui serait elle-même sous une autre forme. Voici, quelques jours plus tard, Casanova rencontrant à Lyon les ambassadeurs de Venise.
J'avais un habit de velours ras, cendré, broché en paillettes d'or et d'argent, une chemise garnie de points à l'aiguille qui valait au moins 50 louis, mes diamants, mes montres à chaîne en diamant, mon épée du plus bel acier d'Angleterre, ma tabatière garnie en beau brillant avec mes boucles de même pierre, le tout formait une valeur de plus de 50 000 écus. Cette ostentation, puérile en elle-même, tenait au temps et surtout à la circonstance. Car je voulais que Monsieur de Bragadin sût que je ne faisais pas mauvaise figure dans le monde. Je voulais que les tyranniques magistrats qui m'avaient forcé de quitter ma patrie sans autre moyen que mon esprit sussent que j'avais su en tirer assez bon parti pour pouvoir me moquer d'eux.
Avant de consacrer quelques moments qui promettent de n'être pas ennuyeux à ce qu'on pourrait appeler le portrait moral de Casanova, laissons-le continuer à se décrire lui-même. Nous connaissons un peu cet homme, grand et lancé au teint africain, comme dit le prince de ligne, qui, sans être beau, a quelque chose de mieux que la beauté. Voici maintenant quelques extraits de la préface de ses mémoires, où il parle encore de lui-même et de ses goûts.
Le tempérament sanguin me rendit très sensible aux attraits de la volupté. J'étais toujours joyeux et toujours disposé à passer d'une jouissance à une jouissance nouvelle, en même temps que j'étais fort ingénieux à en inventer. C'est de là que me vint sans doute mon inclination à faire de nouvelles connaissances et ma grande facilité à les rompre, quoique toujours avec connaissance de cause et jamais par pure légèreté. Cultiver le plaisir des sens fut toujours ma principale affaire. Je n'en eus jamais de plus importante. Me sentant né pour le beau sexe, je l'ai toujours aimé et m'en suis fait aimer tant que j'ai pu. J'ai aussi aimé la bonne chair avec transport. Et j'ai toujours été passionné pour tous les objets qui ont excité ma curiosité. J'ai aimé les mets au haut goût. Le pâté de macaroni fait par un bon cuisinier napolitain, l'olio podrido des Espagnols, la morue de Terre-Neuve bien gluante, le gibier au fumet qui confine et les fromages dont la perfection se manifeste quand les petits êtres qui s'y forment commencent à devenir visibles. Quant aux femmes, j'ai toujours trouvé suave l'odeur de celles que j'ai aimées. Quel goût dépravé, dira-t-on, quelle honte de se les reconnaître et de ne pas en rougir. Cette critique me fait rire, car grâce à mes gros goûts, je me crois plus heureux qu'un autre, puisque je suis convaincu qu'ils me rendent susceptible de plus de plaisir.
Mais s'il a, comme il le dit, de gros goûts, son appétit ne se limite pas à la nourriture. Il apprend aussi, avec passion et voracité. Docteur en droit à 16 ans, il profite de son passage au séminaire pour étudier la physique et la chimie. Il apprend le français à Rome et se perfectionne à Paris avec Crébillon. On le voit ensuite apprendre l'allemand et lire sans cesse, en chaise de poste, chez lui, dans les bibliothèques de ses amis, dans celles des rois ou du pape. Il sait assez de mathématiques pour établir sa loterie sur des bases saines. Il est courageux. Il s'est battu en duel une dizaine de fois. Il est certainement généreux et aime donner à ceux et à celles qu'il aime, ou leur prêter, sachant qu'on ne lui rendra rien. Cela dit, les scrupules ne le gênent guère quand il s'agit de remplir sa bourse. S'il déclare qu'il a le plus souvent trompé ses amis pour les rendre sages, il lui arrive parfois d'être plus franc.
La fourberie est un vice, mais la ruse honnête peut être prise pour la prudence de l'esprit. C'est une vertu qui ressemble, il est vrai, à la friponnerie, mais il faut en passer par là. Et celui qui, dans le besoin, ne sait pas l'exercer avec noblesse, est un sot. Cette prudence s'appelle en grec « serdaleophron », du mot « serda », renard, et que l'on pourrait exprimer en français par « renardise » ou « renarderie », si cette langue admettait plus facilement les emprunts et les néologismes.
Enfin, il lui arrive d'être parfois d'une sincérité que tempère seulement quelques platitudes dans le goût de l'époque.
Je ne me suis jamais aveuglé sur mes défauts. J'ai été un franc libertin pendant toute ma vie et je n'ai pas toujours été délicat dans le choix des moyens que j'ai employés pour satisfaire mes passions. Mais dans la carrière du vice, je me plais à reconnaître que j'ai toujours été passionné pour la vertu. La bienfaisance, surtout, a constamment eu des charmes pour moi, et je n'ai jamais négligé de l'exercer dans l'occasion, à moins que je n'aie été retenu par la vengeance, vice qui, chez moi, a constamment dominé toutes mes bonnes et mes mauvaises qualités.
Quant aux femmes, tous les moyens sont bons pour s'en rendre maître, la séduction comme l'argent, les deux ensemble le plus souvent. Mais il ne méprise que celle qui se donne sans plaisir. On voit que sa morale était facile. Ce mélange de rouerie, de cynisme et de beaux sentiments était à la mode. Mais Casanova aimait, c'est évident, mieux la nouvelle Héloïse que les liaisons dangereuses.
Vous venez d'entendre le second exposé de la série que M. Jean Bloch-Michel consacre à Casanova. Les extraits des mémoires étaient lus par Samson Fincilbert. Ainsi s'achève notre heure de variété littéraire.
C'était Heure de culture française, première diffusion sur France 3 nationale le 9 juin 1959. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des nuits de France Culture.